26 juillet. Notre jardin est beau au moment de l'aurore. Il a froid et chaud en même temps. Monsieur l'aumônier parle toujours de ce qui est vertueux et de ce qui n'est pas vertueux. Je sens bien les différences. Un train qui passe très vite, qui siffle, qui se dépêche, qui disparaît, ce n'est pas vertueux. C'est brûlant, cela fait tourner la tête, regarder avec chagrin par-dessus les coteaux violets. Cela rappelle une poésie que récite Julien. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Mais notre jardin à l'aurore, c'est vertueux. Le petit cœur de chaque fleur est frais, tout est content d'être là, à sa place, immobile, de fleurir, de servir. Les œillets d'Inde pensent. À quelle surprise! Le soleil est chaque matin plus beau qu'on ne pensait. D'un jour à l'autre, on oublie comme il est beau. Oh, qu'il est beau! Et les gros choux verts pleins de rosée me disent « Ma sœur, nous serons doux et tendres pour votre beau déjeuner à 11 heures, dans la salle blanche où entre toute la lumière de l'air et où vous riez avec toutes nos sœurs. » 27 juillet. Je réfléchis à un sermon de Monsieur l'aumônier. Il dit que les fautes et les péchés sont horribles. Moi, je trouve qu'il est difficile de se représenter avec colère les péchés, les fautes. Tout cela a un visage humain qui ne nous effraie pas, qui fait affreusement pitié. Quand j'étais petite, un soir, je revenais en voiture avec mon père et nous avons rencontré un homme qui passait entre deux gendarmes. Mon père m'a dit « Vois, c'est sans doute un voleur. » Ah, le mot voleur, comme il m'a fait peur, comme il est redoutable. Et je regardais. C'était, entre deux gendarmes, un homme pauvre qui avait l'air fatigué. 28 juillet. J'aime mon couvent. Il est frais, il est beau, il est comme en porcelaine, et la chapelle seule est toute lourde, à cause de l'autel, des vases, des chandeliers, à cause du tapis, de l'encens, des chants, des prières. J'aime notre chapelle, je l'adore, mais elle pèse quelquefois sur mon cœur, tandis que dans notre couvent, le soleil entre par de claires vitres blanches, et de tant de côtés qu'on penserait qu'il y a dans l'air 15 petits soleils qui viennent, les uns et les autres, se mettre à chaque fenêtre. 29 juillet. Mon ami m'a embrassé comme il m'avait embrassé une fois déjà, de la manière qui m'a fait peur. Mais ce n'est pas plus mal cette fois-ci que ce n'était mal l'autre fois, c'est la même chose. Je ne me tourmenterai pas. Je remarque que la mère abbesse ne prie jamais plus qu'il ne faut. En dehors de ce que la règle nous ordonne, on ne la trouve point agenouillée à la chapelle ou dans son oratoire. Elle n'a pas d'exaltation pour Dieu, comme la sœur Catherine, comme j'ai eu quelquefois. Elle prie de la même manière qu'elle tient notre couvent, avec plénitude et mesure. Je me figure depuis quelque temps qu'elle a dû avoir dans son cœur quelque chose de plus fort que tout cela, quelque chose qui est mort. Je crois que je la connais beaucoup. Je sais ce qu'elle dirait si je lui exposais mon âme en ce moment. Je la vois, si je disais « Ma mère, la nuit quand vous dormez toutes, un jeune homme qui est très bon, qui est mon ami, vient parler avec moi, reste dans ma chambre quelques heures. Il m'aime. » Elle, de son regard que j'ai quelquefois vu, un regard qui est dur comme deux poings tendus, me repousserait, me retiendrait loin d'elle. Ce regard exprimerait ceci. « Ma sœur, voyez mon mépris. Vous êtes une mauvaise religieuse, comme on est un mauvais soldat, un mauvais berger, un mauvais intendant, un mauvais serviteur. Notre honneur est de tenir notre engagement. Si nous nous étions engagés à ne point haïr Judas lorsqu'il eut vendu notre Seigneur, il faudrait que nous nous tenions à cela. Pour moi, vous n'avez plus votre honneur. » Mais je sens que la mère abbesse, ensuite, penserait en son cœur. « Ma fille, ma petite fille, la vie est désespérante. Moi aussi je suis désespérée sous mon grand courage. Allez en paix, je vous aime encore, vous qui avez une âme qu'il faut qu'on caresse, vous qui êtes ce que vous êtes, naturellement. Comme la sœur Catherine est sèche et brûlante, comme la sœur Marthe est humble, comme moi je suis forte, économe. » 30 juillet. J'ai pleuré toute la nuit. C'est justement cela qui me torture, la certitude que la mère abbesse me pardonnerait. Ma mère, je vous remercie de cacher presque toujours votre cœur, de ne pas me laisser savoir comme vous êtes profonde et bonne. Je vous ai vu ce matin à l'église. Vous aviez l'air dur, distrait. Vous sembliez indifférente à nous toutes. On n'ose pas vous approcher, on vous respecte, on vous adore. On ne sait pas toujours que vous êtes bonne. On vous craint, on vous en veut quelquefois. C'est pourquoi on peut faire ce que je fais. 31 juillet. Ah mon Dieu, comme j'ai encore pleuré cette nuit, comme je souffre encore. Mon ami ne m'aime pas autant qu'il le dit. S'il m'aimait vraiment, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Ce n'est pas ma faute, mais je suis très malheureuse. Comment dire ce qu'il a fait? Quelle colère j'ai eue, avec quelle force je l'ai repoussé, je ne l'aime plus. Voilà ce qu'il a fait. Il m'a prise dans ses bras, il a mis la main sur mon épaule, il a dit d'une voix de fou mais toute basse, « Ma sœur bien-aimée, laissez que je vous caresse. » Je le déteste, je ne le reverrai pas, comme je suis malheureuse. 4 août. Je l'ai laissé venir hier pour lui dire ce que je pensais de lui. Mais il est plus malheureux que moi, plus désolé. Nous sommes tous les deux très malheureux. J'ai pitié de lui. Je lui ai tenu longtemps les deux mains pour le consoler. Je me sentais très forte et lui était très faible. Je disais des choses très bien, très raisonnables. J'étais fière. Je me sentais généreuse, bonne. Je lui ai pardonné. Il comprenait qu'il avait eu tort, très gravement tort. Il était confus, accablé, mais il répétait « Vous ne savez pas comme c'est difficile quand on aime, comme je vous aime, d'être raisonnable. » Je ne comprends pas, mais je suis contente de cet entretien. C'est très bon de se sentir comme je me suis sentie, calme, dominatrice, supérieure. Je l'influençais. 5 août. Il fait chaud. Sont-ce les mouches ou le silence qui bourdonne? Je pense à autrefois. Quand j'étais petite à la maison, nous nous tenions en été après le déjeuner dans une véranda. Ma mère s'éventait avec un grand éventail de papier coloré où l'on voyait des joueurs de mandoline, des barques, l'eau bleue et le rivage. Sur le bois d'ébène de cet éventail, il y avait écrit en lettres dorées « Ricordo del lago di Como ». Je me souviens, il faisait très chaud. L'air lourd étouffait la véranda. La poussière dansait au-dessus des coussins de laine, nous nous taisions et cet éventail remuait. Ricordo del lago di Como. Ces mots ont empli de surprise mes oreilles. J'imaginais un espace d'azur, un amollissement, une longue enfance, une eau calme et glissante. Enfin, tout un pays qui est comme un oreiller du soir où l'on pleure, où l'on chuchote mystérieusement. J'essaye de me rappeler. C'était une tristesse, je ne sais comment dire. Mélodieuse. 7 août. Mon Dieu, vous qui nous voyez, pourquoi ne sommes-nous pas pareils un jour et l'autre? En ce moment, je suis troublée, torturée, misérable. L'étreinte que j'avais repoussée, Seigneur, que j'avais désestée, je la retrouve dans mon esprit, je l'attends, je la désire. Près de mon ami scrupuleux, qui ne me touche plus, je me sens inquiète, irritée, et pleine d'une grande langueur. Je ne vois plus quel sens ont ces visites sans cette étreinte que j'appelle. On ne revient point en arrière, Seigneur. Ah, les roses soupirantes de juillet et d'août qui s'ouvrent la nuit dans les jardins, qu'attendent-elles? Mon cœur est épanoui comme une de ces roses. 8 août. Je sais bien, je devrais réfléchir, méditer la nuit dans mon lit, prendre une sage résolution, m'inquiéter. Je ne peux pas penser. La joie tient éveillée. Mais quand je me tourmente, je m'endors. Le crépuscule est doux, j'ouvre ma fenêtre. Dans une allée du jardin, trois oies blanches font l'une devant l'autre comme sur un vase de porcelaine danoise. Aucune brise dehors. Quel silence. Faiblesse des soirs d'été. Délicieuse consomption de l'air. 9 août. J'ai dit que je ne pouvais pas communier en ce moment, que la pensée de la communion me rendait inquiète, troublée. Autrefois, une religieuse qui ne voulait pas écouter a eu ainsi une véritable maladie nerveuse. On voit que je tombe malade, on me dispense. C'est le médecin qui l'a demandé. Le jour baisse, un oiseau chante, il chante dans une touffe de bambou. Le soleil de 6 heures du soir ressemble à la lune qui serait chaude et rayonnante. Il est si beau que je le regarde en souriant. et il me semble que lui, maintenant, m'aperçoit et me dit. Vous aussi, vous êtes charmante et lumineuse. Comme la beauté de l'air m'environne et m'accable, je ne puis rien saisir. N'y a-t-il pas quelque part dans l'univers une petite géante pour qui toutes ces choses sont faites, pour qui le soleil est une boule légère en or, qui en respirant met dans ses poumons tout l'azur, et en été, quand il fait chaud, appuie ses mains contre les beaux nuages pleins de pluie. 10 août. La supérieure m'a interrogée ce matin. « Mon enfant, ne seriez-vous point occupée du jeune homme ?» Je l'ai interrompue avec vivacité. « Oh, ma mère, quelle idée ! Mais vous voyez bien qu'il ne vient même plus à la chapelle !» Je n'ai pas dit cela pour dissimuler, mais parce que je me suis sentie offensée dans quelque chose qui est, je ne sais pas, la pureté, la pudeur. Et j'ai toute la journée repoussé Julien en pensée. Je sentais bien que ce qu'il m'apporte, c'est le déshonneur. 11 août. Il y a des histoires dans notre couvent. La sœur Catherine s'est aperçue ce matin, pendant ses prières, qu'elle avait dans chaque main une tache rouge et un peu de sang. Ce sont les stigmates comme notre Seigneur. La sœur Catherine pleurait de reconnaissance, d'émotion. Elle répétait « Je voulais tant demander, mon Dieu !» La mère abbesse n'a point paru très touchée de cet événement. Mais la sœur Marthe regardait la sœur Catherine avec vénération. Elle lui baisait le bas de sa robe. Elle disait « Ma sœur, vous êtes comme une sainte !» Le dirais-je, mon Dieu ? Les stigmates de la sœur Catherine m'ont été pénibles, désagréables, ne m'ont point sanctifié le cœur. J'ai regardé ma sœur avec surprise, avec un peu d'éloignement. Ces signes douloureux, ce sang dans ses mains, m'ont attristé, m'ont humilié pour elle. Cela m'apparaissait comme une marque trop forte, comme une servitude d'amour. Monsieur l'aumônier en est très fier. Il l'a dit au médecin qui vient souvent me voir. « Eh bien, docteur, notre couvent a sa petite sainte. » J'ai entendu que le docteur répondait « Nous avons à l'asile d'Orthès une jeune fille un peu exaltée qui a cela aussi comme votre sainte. On la soigne, elle guérira. » 12 août. J'ai parlé de la sœur Catherine à Julien. Il n'a pas ri. Il ne rit plus depuis l'autre fois. Il est très bon pour moi, comme un frère. Je lui ai dit que la sœur Catherine écrivait de belles prières. Cela l'a intéressé. Il fait de la peinture, mais il veut écrire des livres aussi. Il m'a dit qu'il m'enverrait demain une prière qu'il a composée. Le jardinier à qui il donne un peu d'argent la mettra pour moi dans le jardin, comme les lettres. Julien a beaucoup voyagé. Il a visité l'Italie, l'Espagne, l'Égypte, Constantinople. Quand il fait très chaud, nous nous mettons à la fenêtre et il me dit « Regardez, c'est de ce côté-là qu'on peut respirer l'Espagne. » Il me décrit tous ces pays. C'est très beau. Cela doit être comme un jardin qu'une de mes tantes a près de Bayonne, mais plus doux, plus mystérieux, avec des coins qu'on ne connaît jamais, avec un ciel plus bleu et des musiques de tambourins et de flûtes, telles que j'en ai entendu un jour de fête quand j'étais petite, ici, sur la grande place. Julien m'a dit « Je voudrais vous emmener dans la ville d'Italie que je préfère et où il y a des peintures si divines que nous pleurerons tous les jours, et tout autour de la ville, la nature est un tendre jardin plein d'orangers, d'oliviers. » Je me réjouissais de l'entendre parler, mais, ah Seigneur, quelle confusion, quelle douleur! N'avez-vous point connu un jardin plein d'olives ? 13 août. Julien m'a laissé des aquarelles qu'il a rapportées d'Italie. Un vertige me fait chanceler quand je les regarde. Ville bleue, jardin suspendu, terrasse qui a avancé dans mon cœur. Église et couvent de là-bas, où des pigeons s'abattent et que hantent à l'aube, j'imagine, des anges mièvres et longs qui ont un sourire effilé comme le silence d'été et qui écoutent la douceur de l'air avec un doigt levé. Voici la prière que Julien m'avait promise. Elle est païenne, je ne la comprends pas tout entière. Prière à l'amour. Je ne sais rien voir dans le vaste univers qui ne vous soit de tout temps consacré, antique Eros, jeune amour. Mais par ce matin d'été, debout au cœur du jardin du monde, je veux prendre dans mes mains, pour vous les redonner, toutes les douceurs de la nature. Je vous consacre d'abord le temps, immortel, et les plus beaux âges de la vie, depuis l'enfance qui, sous son chapeau penché, flottant, semblable à un léger toit de paille, essaye dans les jardins sur les tendres framboises le futur baiser. Je vous consacre aussi les beaux midis d'été, l'air bleu, compact et doux, l'azur traversé par l'azur. Je vous donne le monde et les endroits du monde si beaux que les imaginer rend oisifs pour toujours. Je vous donne aussi, antique amour, jeune et rose, toutes les villes de la terre et toutes les maisons de ces villes, depuis le temple formidable que Samson ébranla par amour de vous, amour. Je vous donne le feu et toute l'eau, celle où mourut Léandre, celle où glissèrent les larmes d'Ariane, de Calypso, et le sang de Tristan qui mourut au bord de la mer. Je vous donne aussi tous les ruisseaux d'argent vif, par lesquels la terre en été semble rire et se mouvoir. Je vous consacre les yeux de tous les visages, tous les regards obliques, bombés, couchés, fuyants, ceux qui descendent derrière les paupières comme le soleil du soir dans les vagues chantantes, yeux vaincus comme un héros dont les épaules d'argent touchent terre, les yeux triomphants comme deux torches portées au bout de deux bras puissants. Je vous donne aussi toutes les violences, les crimes et les colères, les dagues teintes de sang, le flacon de jusquiame, le gant et la rose empoisonnée, le mouchoir qui perdit d'Esdémone, l'épée qu'Hippolyte laissa dans la main de Phèdre, et en témoignage du temps de la chevalerie, ce cœur chaud de l'amant qu'on fit manger à l'amante. Et je vous offre amour, comme rose dernière et plus belle, et pour que soient éternellement charmées vos sensibles oreilles, le son le plus brûlant, le plus voluptueux, qui n'est pas la voix de Juliette à son balcon, ni la tendre plainte d'Iphigénie, mais le divin éclat d'or que fit, en se brisant, la chaîne étroite des pieds de Salammbô. 15 août, l'Assomption. L'encens, les lumières, les chants. Pendant la cérémonie, mon âme enivrée s'arrache de moi. J'ai la main sur mon cœur, je pense m'évanouir et je dis adieu. L'air et la vie, mon amour, peuvent-ils encore passer entre des dents si serrées? 16 août. La sœur Saint-Louis, qui vit très retirée, toujours silencieuse, ne parle que pour dire qu'elle a beaucoup été dans le monde autrefois, qu'elle a beaucoup dansé. Moi aussi j'ai été dans le monde. C'était des matinées chez ma tante à Bayonne. Le salon de ma tante sentait le parquet et l'andrinople. Un piano mécanique répandait, non pas de la musique, mais des notes courtes et longues qui se précipitaient avec un bruit de baguettes de bois. Des jeunes gens qui avaient très chaud dansaient avec des jeunes filles. Mes sœurs, plus âgées que moi, étaient entourées. Elles semblaient étourdies et très intéressées. J'avais 14 ans, on ne s'occupait pas de moi. Je m'ennuyais. Un jour, un monsieur âgé m'a dit « Comme c'est joli autour de votre tête les petits bouquets de boucles de vos cheveux !» Et il m'a emmené goûter. Quand on avait fini de danser et que tout le monde était parti, des bouts de robe, des petits bibelots en papier, des fleurs déchirées traînaient par terre. Ma tante s'asseyait dans un coin de son salon et s'éventait en soupirant. On était fatigués. On ouvrait les fenêtres. J'entendais les cloches des vaches qui pesaient sur la pelouse. On dînait comme tous les soirs. Il faisait clair encore. J'étais triste, j'avais envie de pleurer. Je n'ai plus voulu aller dans le monde. 17 août. Julien est venu. Il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Mais je sais que le péché terrible, je l'éviterai toujours. Je le devine, il me terrifie. Il n'est pas possible, la mort me semble plus aisée. 19 août. Je prie au pied de votre croix, mon Dieu. Pourquoi ne me protégez-vous pas? Voyez comme je me prosterne. J'attends. Parlez! Vous ne parlez pas. Lui me parle. Je le crois comme je vous croyais quand vous me parliez autrefois dans mon cœur. Lui, c'est vous vivant. Je l'écoute. Pourquoi est-ce que je l'écoute? J'aurais dû fermer mes oreilles, tenir mes mains contre mes oreilles, pour que ce fleuve de délices ne descendît point jusque dans mon cœur. 21 août. Il m'apporte des livres que je ne devrais pas lire, mais je les lis lorsque j'ai commencé, parce que quand il fait chaud et qu'on boit, quand on a la bouche sur le verre plein de belles eaux, on meurt de soif. On ne s'arrête point. On boit encore une gorgée, encore une gorgée. 24 août. Je ne voulais pas cela, ces enlacements où je perds la tête. Mais vous voyez bien, mon Dieu, qu'il est plus fort que moi. 25 août. Mon Dieu, s'il n'était pas plus fort que moi, s'il ne voulait pas ces enlacements, ces baisers plus que moi, ne serait-ce pas moi qui les voudrais, qui attendrais, qui serais pleine de désirs, d'angoisses, d'étouffements? 29 août. On ne sait pas comment cela arrive. 30 août. Je pense aux femmes, à toutes les femmes, aux reines, aux épouses, qui ont déjà plusieurs petits-enfants, aux jeunes filles, à nous qui sommes vos fiancées, Seigneur. Un homme vient qui leur tient les cheveux, la tête, la bouche renversée. Je pense à toutes qui étaient libres, orgueilleuses, qui marchaient sur les routes ou dans un petit jardin. Un homme vient qui les respecte, et puis qui les aime et les désire. Elles étaient libres. Il y en avait de hautaines qui disaient « Moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. » Un homme est là qui a sa bouche toute collée contre leur oreille, il les interroge. « N'est-ce pas? Vous voulez bien que je vous aime, que je m'étende près de vous, que je me penche sur votre cœur. » Et elles disent « Oui, doucement, mais c'est plus fort qu'elles, elles disent « Oui. » 31 août. Monsieur l'aumônier l'a répété ce matin. Le plus grand péché, celui qu'il faut exécrer, redouter, c'est l'orgueil. Mon Dieu, je suis moins orgueilleuse. 2 septembre. Ce n'est pas un très grand tourment, un souci qui déchire, qui dévore. C'est sur mon cœur une nappe de tristesse, de silence et de fatigue. Je ne suis plus ici, pareille aux autres. Je suis différente de mes sœurs. C'est cela qui me donne cet accablement, cette lente et calme folie. Je m'approche de la sœur Jean, vieille, usée, sourde. Mais avant d'entrer ici, elle a été mariée dans le monde. Il y a de cela plus de 40 ans. Nous la méprisions un peu parce que nous la sentions différente. Je ne puis m'approcher que de la sœur Jean. Oh, ma sœur Catherine, intacte, solitaire comme un vase fermé, comme le calice lorsque le prêtre l'a recouvert de soie blanche et d'or. Je ne suis plus digne de marcher auprès de votre cœur, de m'approcher de vos mains que j'ai méprisées, qui m'ont humiliée pour vous, lorsqu'elles versaient par amour le sang de vos veines adorables, pures. 4 septembre. Monsieur l'aumônier l'a dit encore. La contrition, c'est une fleur agréable où les regards de Dieu pénètrent comme des abeilles. 7 septembre. Julien est revenu. Je suis heureuse. À qu'importe tout l'univers, tout le péché, il y a cette flamme, cette ivresse, cet enivrement. Au fond de l'être, une divine perle s'émeut, et la sensation même, c'est cette perle, limpide, nacrée, et d'un éblouissant éclat. Julien dit « La volupté ». 10 septembre. La volupté, tout est volupté. Il vient, je le connais, je ne le connais pas. Être toujours une timidité, une surprise l'un pour l'autre. Il veut, je ne veux pas, je veux. Il a peur de moi, j'ai peur de lui, nous n'avons plus peur l'un de l'autre. Nous connaissons notre cœur. Il est mon frère, mais ah, quelle volupté! Mon frère est un étranger. 18 septembre. C'est la fête de Sainte-Sophie. C'est ma fête. Je m'appelle Sœur Sainte-Sophie. Julien, cette nuit, m'a apporté une petite bague avec une pierre rouge, pour ma fête. Il avait attaché à cette bague une feuille de papier où il avait écrit ces mots. « Oh, ma chère petite Sainte-Sophie, qui êtes comme la belle église de Constantinople, qui est une douce mosaïque dorée, une chère église infidèle, un temple plein de musc et de pastilles de roses, qui êtes comme une nonne caressée par un sultan, toute pareille à ma chère Sainte-Sophie, voluptueuse, sous le soleil près du Bosphore. » 19 septembre. Mon couvent, vous me fendez le cœur d'amour. Vous êtes ce matin comme une pelle turquoise douce. Septembre est encore plus tendre qu'août. Le jardin, quand j'y suis descendue avant l'aurore, car je ne peux plus dormir, était une âme en petits cailloux, en buis vert, en pétales qui causent avec soi-même. Il est un peu plus long que large, et bordé sur trois côtés par les arcades blanches du couvent. Je suis restée là, j'ai marché. Il montait des petites fraîcheurs de chaque touffe de bégonia, et puis le soleil est venu. J'ai vu arriver le jardinier, qui est un garçon de 14 ans. Il m'a salué et s'est mis tout de suite à soigner les fleurs, les genoux dans la terre, au bord d'un massif. Une de nos sœurs, la sœur Colette, dont je ne parle pas souvent tant elle est effacée, a traversé le jardin. Elle était coiffée par-dessus son béguin et son voile de religieuse d'un chapeau de paille en forme d'entonnoir renversé et tressé grossièrement comme une hotte, comme un taillis de jonc. Elle craint le soleil. Je suis restée là. Tout était délicieux. Le silence est un voile fin qui se balance. Et puis, la cloche de la chapelle a sonné pour la messe, dans le léger clocher. Les sons suaves, transparents, se répandaient sur le jardin. Il ne semblait point qu'une de nos sœurs fût occupée à tirer cette cloche par une corde, mais que cette cloche s'était mise à sonner d'elle-même, comme un oiseau chante, comme une fleur éclos, à cause des douces conditions de l'air. 20 septembre. J'ai pris froid. Je suis un peu malade. Vous m'avez envoyé cette fatigue pour me sanctifier, Seigneur. Je vous remercie, vous me sauvez. Mon âme n'a plus son profane emportement. Je me guéris de ma violence, de ma folie. J'ai beaucoup souffert et toussé toute la nuit, mais je me sentais purifiée, libre, innocente. Si on m'avait apporté des jouets sur mon lit, comme quand j'étais petite, j'aurais joué. 23 septembre. Je suis encore souffrante. Julien est venu me voir. Il vient maintenant par la porte du couvent. Il a une clé. Sa présence m'a fait beaucoup de peine. J'étais gênée, confuse. Une religieuse qui est malade ne peut avoir auprès de son lit que son aumônier, son médecin, ses sœurs. Je lui ai dit qu'il ne fallait plus que nous fussions ensemble ce que nous avions été. Il a ri, comme quelqu'un qui dit « Il faut attendre ». Mais ensuite il a senti que j'étais sincère, que c'était vrai tout ce que je lui avouais, mon goût pour la douceur, pour la paix que j'éprouvais. Cet emportement, cette folie de la dernière semaine, ce n'est pas dans mon caractère. On ne sait pas comme les choses les plus saintes deviennent vite ordinaires au couvent. Les blessures de la sœur Catherine, on ne s'en occupe plus beaucoup. On lui dit le vendredi par curiosité, parce qu'elle les ressent davantage le vendredi, qu'on veut savoir si cela dure encore. « Eh bien, ma sœur ?» Mais il semble que la mère abbesse, avec un peu d'humeur, pense en regardant la sœur Catherine. « Si vous vous dominiez, ma sœur !» Julien m'a montré le petit dessin qu'il a fait de moi. J'ai été offensée. On ne fait pas de portrait d'une religieuse. 24 septembre. C'était vrai, je vous jure que c'était vrai, mon Dieu, le repentir, la grande fatigue, le grand dégoût que j'avais quand j'étais malade ces jours-ci, de ma vie passée. J'étais faible, sans nourriture. Vous me souteniez. Je priais avec force. J'étais heureuse. Je suis guérie, mais vous êtes repartie. Et me voici toute livrée encore à ce désir que vous avez mis en nous, mon Dieu. On est sage, raisonnable, on a la face toute tournée vers vous, on goûte la blancheur qui est une chère volupté que vous nous avez permise, et puis toute notre âme nous emporte vers un péché qui ne semble pas un péché. Je vais vous dire, mon Dieu, ce n'est pas de notre faute. C'est comme cela que vous nous avez faites. L'amour, c'est un doux, involontaire mécanisme du cœur, comme la foi plus vive, comme l'extase que les saintes nous souhaitent. Il y a des choses où l'on ne peut rien. Voyez, mon Dieu, si Monsieur l'aumônier, pour nous toucher, nous rappelle notre petite enfance, nos jeux, notre père mort, nous pleurons. Et si la mère abbesse nous dit « Je suis satisfaite de vous, ma fille, nous tenons plus droite, nous sommes plus courageuses. » Et si une de nos sœurs nous donne un bouquet à respirer, nous respirons fort d'abord, et nous soupirons après. Et si notre ami met son cœur près de notre cœur, nous ne savons plus rien que son désir, et notre désir plus tendre encore que le sien. Toutes ces choses, mon Dieu, sont une seule chose, la même chose.